Le divan ont donné le nom de Repars et moi à leur collège. Parce que je voudrais rappeler quand même que j'avais fondé une école divan à Guingamp. Je donnais de l'argent pour divan et j'ai fondé cette école. Donc c'est là que j'ai commencé à informer le MRAP ou la Ligue des droits de l'homme ou des associations en disant mais Repars et moi, ce n'est pas du tout le pauvre militant qu'on va expédier en Irlande et qui va finir ses jours à Dublin parce que les Jacobins l'ont chassé. C'est quelqu'un qui écrivait des textes antisémites et qui était pour l'Europe nouvelle dans le cadre du Reich. C'est d'autre part quelqu'un qui a écrit que sous l'occupation, la Bretagne avait enfin connu des jours de liberté. Donc le fait qu'un collège porte le nom de Repars et moi, à partir du moment où moi j'étais devenue consciente de ce qu'il avait écrit et de la démarche dans laquelle il avait entraîné le mouvement breton, et surtout des gens qui l'entouraient, parce qu'il n'était pas tout seul. Tous les militants nationalistes engagés dans le combat de Breslau étaient forcément alliés aux nazis qui les soutenaient. Sur une même base idéologique, on est celte, on n'est pas français.
Le mensuel Bretagne-Île-de-France publie dans son numéro de mai un article concernant l'écrivain et linguiste bretonnant Repars et Monde.
France 3.
Son nom se trouve sur un document des archives de Saint-Brieuc qui serait, selon deux historiens de la Résistance, une liste des agents de la Gestapo en Bretagne.
17 avril 2000.
Repars et Monde est connu par les bretonnants pour ses ouvrages de littérature, ses manuels d'apprentissage de la langue et ses dictionnaires. Toute sa vie, il a placé son combat pour la langue bretonne avant toute chose. Seulement, pendant la guerre, il a accepté la direction de la radio en langue bretonne, radio financée par les services de propagande allemand. Quel qu'il en soit, le mouvement culturel breton a pris le taureau par les cornes. Le collège Diwan ne s'appelle plus Repars et Monde.
C'est un acte très courageux. L'essentiel, c'est de nous dégager de ce passé qui pèse très lourd et qui a porté préjudice à la culture bretonne.
Alors, il y a quatre jardins autour de la maison.
Oui, ici, c'est le jardin de derrière. Là où il y a le jardin d'en haut. Après, il y a le jardin d'en bas et le jardin de devant.
Ça fait que la maison est entourée de jardins.
Oui. Quand on était enfant, c'était un paradis. Et les cerisiers, il y a un lavoir, il y a une fontaine.
Elle est où la fontaine?
Vous voulez la voir?
Oui.
Oh, il y a une accalmie. C'est miraculeux.
Descend des marches, là, on rentre dans un jardin en contrebas.
En fait, c'est un endroit assez mystérieux. Il y a comme quelque chose de très étrange, c'est très ancien. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours prouvé un sentiment de crainte. Avec les grands arbres tout autour. Et au-dessus, vous avez la vieille fontaine qui doit dater du XVIe siècle. Ça, c'était l'atelier. Mon grand-père est mort très jeune et ma grand-mère est restée veuve. Et sous l'occupation, quand les prisonniers sont arrivés, la mairie de Rostrena a réquisitionné l'atelier et a construit tout autour ses vitres, ses portes, et l'a recouvert. Et on a installé des chalets et il devait y avoir une centaine de prisonniers peut-être qui étaient là. Et ensuite, quand les Allemands sont arrivés, ils ont envoyé les prisonniers à part, à côté, et ce sont les Allemands qui se sont installés là.
Dans l'atelier, là?
Oui, ils étaient là, ils venaient prendre l'eau, la voir. Ben, moi, j'écris un livre sur cette époque. J'ai fait l'histoire de la rafle du 11 juillet 44, au cours de laquelle les camarades de mon père ont été assassinés, après avoir été torturés par les miliciens bretons. Bon, il m'a semblé qu'en travaillant un événement historique, un petit événement historique, et en le travaillant en étoile, on arrivait à faire l'histoire de manière plus intéressante qu'en partant des récits faits par les historiens, qui d'ailleurs avaient totalement dissimulé les responsabilités des miliciens bretons et les passaient totalement sous silence.
Parce que les nationalistes bretons, eux, étaient du côté des nazis.
Oui. Le mouvement breton nationaliste dans son entier a collaboré. En 2010, j'ai publié donc un essai, « Milicien contre Maquisard », et je suis contente de l'avoir fait, puisque sinon, les résistants de Rostrena ne seraient qu'une bande de criminels. Et toute la résistance n'aurait été qu'un combat d'arrière-garde mené par Moscou et en vue d'instaurer une tyrannie en Bretagne. C'est la théorie nationaliste qui considère